Dialogue entre Congolais présenté par Alain Young.
Bonsoir. Le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO exprime sa préoccupation face à l'arrêté du ministre congolais de l'Environnement autorisant la compagnie Soko Safo South Africa Congo Oil a procédé à l'exploration, l'exploration pétrolière dans le bloc 5 du parc national de Virunga au nord Kivu. Ce bloc couvre environ les trois quarts de la superficie totale du parc. Comment analyser cette décision du gouvernement? Quelles pourraient être les conséquences si cette exploration aboutissait à l'exploitation pétrolière dans le parc de Virunga? Nos invités sont ministre José Ndongo, ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme du gouvernement central. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir.
Al Kitenge, analyste économique. Monsieur Kitenge, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Isaac Mumbere, membre de l'ONG Centre de recherche sur l'environnement, la démocratie et les droits de l'homme, Credo, basé au Nord Kivu. Monsieur Mumbere, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Merci à vous, chers auditeurs et internautes, qui êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. Robert Kabandani de Bukavu Sud qui vous, que le gouvernement sache que le parc de Virunga constitue un bijou que le pays a sur le plan touristique. Il existe beaucoup de gisements de pétrole ailleurs. Exploitons-les, laissons le parc intact. Il ne faut pas habiller Saint-Paul et déshabiller Saint-Pierre. Qu'avez-vous dit, Jean-Louis Ernest, porte-parole du gouverneur du Nord Kivu? La RDC n'a pas le choix car les voisins qui partagent le pétrole de ce lac sont en avance. Refuser d'exploiter en RDC signifie que les autres exploitent et bénéficient seuls. Je crois que la solution se situe à deux niveaux. D'abord, mettre en place un maximum de mesures environnementales et ensuite prévoir dans la signature du contrat d'exploitation une part conséquente réservée au bien-être des populations riveraines du parc qui doivent être les premiers bénéficiaires de leur pétrole. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokatu.net.
Je le disais dans le sommaire, le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO exprime sa préoccupation face à l'arrêté du ministre congolais de l'Environnement autorisant la compagnie South Africa Congo Oil Soko à procéder à l'exploration pétrolière dans le bloc 5 du parc national de Virunga. Nous sommes en Nord Kivu. Ce bloc couvre environ les trois quarts de la superficie totale du parc. Notez que le site d'exploitation pétrolière couvre une superficie de 7000 km² allant de Rumangabo en territoire de Rutshuru jusqu'à Kasindi Port au nord en territoire de Beni, enlongeant le lac Édouard au cœur du parc national de Virunga. Reportage Bernard Benyangi.
Dans ce communiqué de presse rendu public mardi dernier, cet organe de l'UNESCO affirme en effet que cette position du gouvernement congolais ne fait qu'augmenter la vulnérabilité du parc de Virunga, déjà classé du patrimoine mondial en péril depuis 1994. La prise de position de l'UNESCO intervient quelques jours seulement après celle du gouvernement belge qui qualifiait d'illégal la reprise des activités de prospection pétrolière par Soko International dans le parc national de Virunga. Déjà en 2011, l'exploration du pétrole dans le parc avait été contestée par certains élus locaux ainsi que l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN). La quasi-totalité de la communauté internationale, tout comme les ONG partenaires, avait fortement soutenu cette démarche, obligeant le gouvernement congolais à faire marche arrière. Goma, Bernard Benyangi, Radio Okapi.
Merci Bernard Benyangi, monsieur le ministre José Ndundo. Commençons par le commencement. Vous confirmez avoir signé un arrêté autorisant Soko à l'exploration pétrolière dans le parc de Virunga.
Oui, je crois qu'il faut. Le sujet est tellement important qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Sinon, on parle et on ne voit pas exactement de quoi il s'agit.
C'est aussi pour ça que l'on va...
Je vous remercie d'ailleurs pour l'occasion que vous me donnez, parce que depuis quelques jours, on évoque le sujet. De quoi s'agit-il? En 2007, le ministre des Hydrocarbures et celui des Finances ont signé un contrat de partage de production avec Soko. le 18 juin 2010, donc 2 ans et demi après, une ordonnance présidentielle a approuvé ce contrat de partage de production, ce CPP. Mais l'ordonnance présidentielle prévoit que les lois du pays doivent être respectées. Et donc, s'agissant de cela, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons demandé à Soco, qui était justement la partie co-contractante avec le gouvernement par rapport à ce sujet, de nous faire, comme c'est prévu par la loi, une étude d'impact environnemental et social. Cette étude, nous l'avons rejetée parce qu'elle prenait en compte des choses qui n'étaient pas autorisées par la loi. Parce qu'il existe en effet une loi, numéro 69/041, qui prévoit qu'il est interdit de faire de l'exploitation des choses qui violent l'intégrité du parc. Cela est prévu. Et donc, forcément, nous avons rejeté cette étude qui avait été soumise par Soco. J'ai dit que c'est ainsi que les choses se passent. Et puis Soco est revenu en arrière. Après les discussions, Soco a dit « Je vais faire une étude d'impact environnemental. » Et cette étude a prévu qu'il n'y a pas d'outrage au parc. Il n'y a pas d'atteinte au parc. Que faut-il faire à ce moment-là? D'autant plus que s'il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas exploiter le pétrole, d'autres, vous venez d'entendre, le directeur de communication du gouverneur du Nord-Mambo, veulent faire l'exploitation du pétrole qui s'ouvrait, parce que là aussi, c'est du conditionnel. Personne n'a prouvé qu'il y a du pétrole. Alors, puisque la nouvelle étude l'impact environnemental et social de Soco n'outrage pas le parc, ne viole pas le parc. Nous avons autorisé Soco à faire des prélèvements à partir de 500 mètres d'altitude, pas à l'intérieur du parc, de faire des acquisitions magnétiques et gravimétriques qui permettront d'établir si oui ou non il y a du carburant. C'est ça la prémisse. Alors, est-ce qu'on a autorisé ou on va demain autoriser l'exploitation pétrolière? Mais non. Ce que nous voulons savoir, et nous sommes en phase par rapport à cela, avec les partenaires de la communauté internationale qui ont financé, l'Union européenne a financé, une évaluation environnementale stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, demain, le gouvernement aura en main un outil qui lui permettra de dire, voilà ce que peut rapporter l'exploitation pétrolière, voilà ce que rapporte en termes de tourisme, d'écotourisme, en termes de crédibilité le parc, voilà la décision qu'il faut prendre. Mais en tout état de cause, on ne pourra pas exploiter le pétrole dans le parc aussi longtemps que le système législatif est ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, rapidement reconstitué, ce qui en est exactement de ce que l'on dit aujourd'hui. Alors, le patrimoine, j'ai rencontré, vous savez que la directrice générale de l'UNESCO est venue ici à mon invitation. Elle a été reçue par les plus hautes autorités du pays. Et il n'est pas question pour nous de porter atteinte, de laisser porter atteinte au parc. Et l'étude que fait l'Union européenne, c'est justement pour arriver à ce que un jour les Congolais connaissent quelle est la richesse du sous-sol et prennent les décisions qui s'imposent, tenant compte, un, de notre crédibilité internationale par rapport à la gestion. Vous savez que nous sommes une puissance environnementale, mais tenant aussi compte des besoins de lutte contre la pauvreté dans ce pays.
Alors, Monsieur le Ministre, à avoir l'avalanche des réactions, on a l'impression que le gouvernement fait face à beaucoup de pression.
Bon, écoutez, un gouvernement n'agit pas sous la pression. Un gouvernement agit, ce que je vous dis là, c'est ce que nous expliquons. Et j'ajoute que nous avons des partenaires extérieurs qui comprennent. Vous savez, il y a aujourd'hui un cas exemplaire. Le pays qui s'appelle Équateur a un parc qui s'appelle Yasuni. Et là, on a découvert du pétrole, prouvé et démontré. Donc il a fallu faire des études pour voir. Alors, que fait le président de l'Équateur? Il dit, voilà, il y a une capacité de 4 ou 5 milliards de dollars. Je demande qu'on puisse maintenir la non-exploitation dans ce parc, mais que, en contrepartie, on mette à notre disposition les ressources nécessaires pour les populations concernées. Voilà l'évolution actuelle. Donc, il ne s'agit pas, contrairement à ce que j'entends dire, d'une atteinte au parc, puisque la décision, en tout état de cause, aucune décision ne peut être prise pour l'exploitation du pétrole dans le parc des Virunga à l'état actuel. De deux, nous ne savons même pas, mais nous avons quand même le droit de savoir si
milliards de pétrole. Et je terminerai par là. Il y a aujourd'hui des technologies qui permettent d'exploiter du pétrole ou d'autres produits de cette nature sans nécessairement le faire sur le site même. Il faut que nous l'apprenions, il faut que pour d'autres réserves qui sont prévues, à l'Équateur, le parc de la Salonga, etc., etc., nous ayons au moins fait une étude sans pour cela porter atteinte à ce patrimoine mondial que nous avons.
Ivaka Omombéré, vous êtes membre de l'ONG Centre de Recherche sur l'Environnement, la Démocratie et les Droits de l'Homme, Credo, basé en Nord-Kivu. Vous venez de suivre le ministre José Ndundo. On sait que plusieurs ONG, tant nationales qu'internationales, ont réagi face à cette mesure. Êtes-vous apaisé?
Je remercie premièrement le ministre de l'Environnement qui est aussi à ce moment. Mais je rappelle aussi tous les textes nationaux de notre pays et aussi les textes internationaux auxquels notre pays a adhéré pour la conservation de la nature, mais aussi qualifiant le parc de Virunga comme un site du patrimoine mondial. Tout ce que je connais, c'est qu'il y a la déclaration de Kinshasa de janvier 2011. Il y a aussi la lettre du ministre de l'Environnement du 17 mars 2011. Et dans toutes ces correspondances, vous retrouverez que le ministre, en tout cas le ministère de l'Environnement, n'a jamais autorisé par le parc de Virunga et avant que l'entreprise ne puisse pas apporter de preuves de l'étude de cet impact environnemental que l'entreprise avait fait. Et aussi, l'autre préoccupation, c'est que nous sommes au niveau où nous voulons comprendre à qui profiterait l'exploitation du pétrole du lac Édouard au détriment du parc national de Virunga érigé en site du patrimoine mondial commun de l'humanité. Mais je rappelle aussi que quand on parle du parc de Virunga, on voit seulement tous les écosystèmes, on ne voulait pas aussi voir toute la population qui se retrouve dans et autour de ce parc. Et je vous rappelle que nous avons dans et autour de ce parc au moins 500 000 habitants, d'ailleurs plus de 500 000 habitants, familles, je vais dire, qui vivent aussi de ressources halieutiques et aussi qui ont créé aussi quelques activités d'auto-subsistance et profitent à leur survie. Et lorsque on autorise l'entreprise Soco à procéder à l'activité d'exploration et éventuellement à d'exploitation, parce que ça dépend de tout ce qu'ils auront trouvé comme baril, mais on ne veut pas associer cette population aussi à cette problématique, nous disons que, en tout cas, le gouvernement congolais serait en train d'abandonner cette population entre les mains de l'investisseur. Et comprenez que lorsque c'est l'investisseur qui prend le dessus, donc la population, en tout cas, elle est sacrifiée.
Exactement.
Et je pense que oui.
Isaac Mumbere, vous avez pu lire le ministre Ndundo dire premièrement qu'on n'était même pas encore sûr qu'il y avait du pétrole dans le parc et deuxièmement, on avait quand même besoin de connaître la quantité de pétrole qu'il y avait. Ne pensez-vous pas que ces études soient utiles? Qu'est-ce qui vous est fait dans cette démarche?
En fait, quand le ministre dit on ne sait même pas s'il y a du pétrole dans le lac Albert, moi aussi je m'interroge sur les pourquoi du contrat.
Dans le parc.
Oui, les contrats lui-même. c'est un contrat qui a été signé à connaissance qu'il y avait déjà le pétrole. Et je rappelle aussi cette fameuse étude de pacte environnemental qui a été déjà faite. Donc, comprenez qu'on est en train de rebondir sur un dossier où on avait déjà quelques éclaircissements. Et que donc, pour moi, c'est un amalgame qui est créé et on ne sait pas vraiment dire à qui profite cet arrêté de l'environnement aujourd'hui.
Merci Isaac Mombéré, Alkitenge, vous êtes analyste économique, vous avez suivi le ministre José Ndundo, ainsi que Isaac Mombéré, qui a encore certaines craintes par rapport à cette exploration.
Pour commencer, il faut dire qu'il est de toute évidence qu'il y a du pétrole dans ce parc. Quelle nature de pétrole et en quelle quantité, c'est ce que nous ne savons pas, ce qui justifie justement qu'aujourd'hui, le partenaire, le gouvernement congolais, se décide de faire cette étude. Mais cette étude a deux obligations. La première, d'abord, de faire une étude d'impact environnemental de qualité, qui peut être en mesure de déterminer si, oui ou non, il y aura un impact de quel type. Mais vous savez, l'étude d'impact environnemental n'est valable que si elle est suivie par ce qu'on appelle un plan de réhabilitation environnementale en fin d'exploitation. Donc, ça fait partie d'un cahier de charges qui doit être discuté correctement. Qu'à cela ne tienne, je pense qu'il y a une question de responsabilité. Regardez autour de nous, l'Angola, le Congo-Brazzaville, un peu plus loin, l'Algérie, la Guinée. C'est tous des pays qui ont utilisé le levier pétrolier pour développer le pays. Le plus important pour nous, ce n'est pas laisser des gens comme les Amérindiens au Canada, dans un état sauvage, on vient les regarder. Il s'agit de donner un environnement de vie moderne, un environnement de vie correct pour que les gens se développent. Et il ne s'agit pas que des gens du Kivu, c'est une question nationale autant que la question des autres minéraux et des autres ressources naturelles. Donc il est important de savoir que le moment venu, en toute connaissance, fort de toutes les études, le gouvernement devra prendre un certain nombre de décisions, mais avant le gouvernement, le Parlement. Aux situations exceptionnelles, il y aura certainement des lois exceptionnelles. Maintenant, reste toute cette question de la confrontation ou de la position face à face entre le gouvernement congolais face à la population et le gouvernement congolais face aux pressions internationales, y compris celles des ONG qui manipulent nos populations. Je pense que là-dessus, le gouvernement a le devoir d'être suffisamment transparent, de parler en chiffres, d'expliquer aux populations pour que celles-ci adhèrent. Mais aussi, il faudrait bien que le partenaire et le gouvernement aient un plan de déroulement correct. Et ça sous-entend qu'en fait, comme on le dit, l'inquiétude c'est que les Congolais ne se sentiront jamais à l'aise dans les mains des investisseurs, ils se sentiront à l'aise dans les mains du gouvernement. C'est pour ça que je pense que la responsabilité de notoire est celle du gouvernement de pouvoir expliquer où exactement nous allons, mais pour bien le faire, il faut le faire en toute transparence,
de communiquer suffisamment. Il faut absolument communiquer étape par étape, ne pas laisser la place à la rumeur et ne pas laisser les pressions extérieures manipuler nos populations pour les monter contre le gouvernement. Moi, je dis une seule chose. Si demain, il est prouvé que nous avons des réserves certaines en quantité qui justifient l'exploitation, il faudra par-dessus tous les états d'âme passer à la phase d'exploitation et donner à ce pays un environnement moderne et une véritable chance à ces 500 000 personnes qui habitent, y compris dans ce parc, et qui vivent dans des conditions animales. Et ce que j'ai envie de dire, ça peut paraître dur, mais à un moment donné ou à un autre, il faut savoir qu'il n'est pas très intelligent pour une république d'être assise sur des minéraux et d'avoir une population qui meurt de faim et qui meurt de malaria. Et donc, à un moment donné ou à un autre, il faut savoir que les ressources naturelles, dans toute responsabilité, doivent être mises à la qualité de vie des personnes.
Prenons cette réaction qui nous vient de Butembo au Nord Kivu pour vous, Alkitenge.
Carlos Benga de Butembo au Nord Kivu. Que l'exploitation du pétrole met en péril le parc maintient en rien le Congolais ordinaire, vu qu'aucune de ces deux activités ne profite à la population locale. Le parc étant un champ de moire et une source d'insécurité, le pétrole n'apportera pas plus que les autres minerais.
Réaction Alkitenge. Il y a un véritable problème dans ce pays. Nous sommes un pays immensément riche, potentiellement, et malheureusement, la conversion en richesse réelle et la distribution par le travail ne suffit pas. Ça, c'est une question de gouvernance. Je crois simplement que nous sommes aujourd'hui à une phase charnière. Nous passons d'une mandature à une autre. C'est le moment de pouvoir recréer cette confiance entre les dirigeants et les personnes qui sont dirigées pour que, demain, la visibilité sur l'action gouvernementale soit établie. Et je dis encore ça d'une autre manière. Un pays doit avoir un plan général de développement qui met en phase
toutes ses ressources, les procédures et les processus, et également où est-ce que nous allons. Ça permettrait aux gens de savoir que nous avons un avenir commun, en fait notre nation. Et ça permettrait aux gens d'avoir confiance en un espoir que l'on a réellement créé en eux. Aujourd'hui, la faiblesse du gouvernement, c'est qu'il ne nous donne pas, suffisamment de lumière ce où on désire nous amener. Et quand vous entendez les gens, ils vous parlent plutôt des ONG internationales. Ce pays ne sera jamais géré par les ONG internationales. Le gestionnaire de ce pays, c'est le gouvernement.
Alors, la RDC doit se doter d'un plan général de développement. Al-Kitengé, la RDC est-elle en retard par rapport aux autres nations? Ces études ne devraient-elles pas commencer plus tôt que prévu?
Nous sommes en retard en tout. Notre cadastre minier, par exemple, il est basé sur les informations que les investisseurs nous donnent. Nous n'avons pas fait d'études minières approfondies pour avoir une cartographie minière qui nous permettrait d'aller au-devant des financiers et des exploitants pour les intérêts généraux. De la même manière,
le cas pour le parc également.
C'est exactement la même situation dans laquelle nous sommes dans le secteur pétrolier, parce que l'Angola avance, l'Ouganda avance et nous sommes en retard. Il y a bien entendu toute la question de la planification. Et à un moment donné ou à un autre, nous n'avons pas, nous, fait ce qu'il fallait faire. Dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle un fonds d'études, c'est-à-dire l'argent nécessaire pour acheter l'information. Parce que à agir en dehors de l'information, on agit de bonne foi. On ne peut pas gérer un pays de bonne foi. Et il est important que nous apprenions non seulement à acheter le matériel, mais aussi à acheter les études. Et je pense simplement que nous sommes, comme vous l'avez dit, en retard, et il est important que nous récupérions ce retard, justement.
Monsieur le ministre, vous intervenez après cette réaction qui nous vient de Mbujima et Kassa Oriental pour vous.
Benoît Denis Coco, depuis Mbujima et Okata Oriental. Pour moi, je vois que l'exploitation forestière dans ces parcs, c'est une façon de faire disparaître ces parcs sur la carte de la RDC. Et c'est une façon aussi de faire disparaître certaines espèces du parc. Car ce parc est plus important pour nous, les Congolais.
Monsieur le ministre, il y a beaucoup de réactions, vous le suivez également. On sent une certaine crainte. Est-ce que ce n'est pas parce que vous ne communiquez pas suffisamment également?
Non, mais je crois que la politique de communication existe. Je suis là pour quoi? Je suis là pour expliquer. Vous m'avez appelé aujourd'hui, je suis là. Qu'est-ce qu'il faut dire aux gens? Je rejoins quelque part M. Kitengé, sans être totalement à son avis. On ne peut pas développer un pays sans qu'il y ait, par exemple, un zonage. Comment va-t-on exploiter et où on va exploiter le pétrole? On a besoin, un pays a besoin d'air protégé, comme les Virunga, comme le parc de Kavuzi-Biega, et a besoin également d'autres exploitations minières. Regardez le changement historique qu'il y a eu de considérer que les mines, nous pouvions anticiper sur les mines. On fait des routes aujourd'hui financées par les mines. Donc il faut aussi avoir le courage d'examiner les choses, de faire les études, il faut les faire, et aussi de rétablir le contexte global. J'entends parler de 500 000 personnes. Non. Dans un rayon de 200 km à partir de Goma, si vous tracez un cercle, vous avez 25 millions de personnes. Vous avez le Rwanda, vous avez l'Ouganda, vous avez le Nord Kivu, vous avez le Sud Kivu. Il y a 25 millions de personnes. Vous ne pouvez pas ignorer les besoins de cette population. Tout en privilégiant, puisque là c'est un site extraordinaire, le maintien du parc des Virunga. Mais cela n'exclut pas de dire qu'est-ce qu'il y a sur le sol du parc des Virunga. Cela n'exclut pas de voir aujourd'hui que la Salonga peut être un réservoir immense de ressources pétrolières. Cela n'exclut pas la possibilité. Il faut oser. Et oser, ça veut dire quoi? Puisqu'il y a une étude d'impact environnemental et social. La première a été rejetée. La deuxième n'outrage pas, ne viole pas le parc. Pourquoi ne pas laisser faire des survols de territoire pour des acquisitions aéromagnétiques qui permettraient de dire oui, la quantité de pétrole est exploitable et peut être rentable. Quelle est la contrepartie que nous allons obtenir? Qu'est-ce que nous faisons de ce pétrole? Là, ça demande évidemment que toutes les couches de la population, la société civile, les exploitants, ceux qui sont dans l'agriculture, ceux qui sont dans le tourisme, puissent aussi donner leur point de vue. Mais si vous n'avez pas cette étude préalable, vous ne pouvez rien conclure, vous allez rester dans une situation de statu quo. Est-ce que le statu quo consiste aujourd'hui aux 70 millions de Congolais qui seront demain 125, 130 millions? C'est ça la problématique. Bon, la question de bonne foi, puisque M. Al-Kitengé, il faut considérer que l'autre partie, ou la partie adverse, est de bonne foi. On ne peut pas bâtir, il n'y a aucun système humain qui exclut la bonne foi. La bonne foi existe, il faut l'utiliser, il faut considérer que ce gouvernement ne va pas commencer demain l'exploitation pétrolière dans le Virunga. S'il devait le faire, il devrait le faire en association avec les populations et dans l'intérêt des populations.
Monsieur le ministre, en promulguant l'ordonnance présidentielle portant exploration et production du pétrole dans le bloc 5 du Rift Albertin en RDC, en juin 2010, le président de la République n'était-il pas parti vite en besogne?
Non, pas du tout. Pas du tout. Les ministres responsables ont fait ce qu'ils devaient faire. Le président de la République a fait ce qu'il devait faire. Je rejoins M. Tissonnier pour ça. Maintenant, il y a une structure qui est justement le ministère de l'Environnement qui doit dire non, la loi numéro de telle date ne permet pas l'exploitation pétrolière, donc nous n'allons pas dans l'exploitation pétrolière. Il y a une autre loi qui envisage l'étude d'impact environnemental et social. Est-ce que cette loi a été respectée? Et alors on peut poursuivre. Donc je ne crois pas qu'il faille entrer dans ce manichéisme qui consisterait à penser qu'une partie est de bonne foi, l'autre ne l'est pas. Aujourd'hui, prenons les choses, considérons que, un, dans la situation actuelle, la loi ne permet pas l'exploitation pétrolière, mais elle n'exclut pas, et elle est très précise, la loi de 1969, lorsque on vous dit on ne peut pas autoriser des vols d'avion à 300 mètres. Si c'est à 400 mètres, on peut les autoriser. Par exemple,
Isaac Mumbere, vous intervenez également juste après cette réaction qui nous vient de Bounia en province orientale pour vous.
Gawal Zubin Chapani de Bounia, province orientale. Je dirais à l'UNESCO d'interroger Copenhague. Il n'y a pas eu de solution favorable aux pays riverains. Doit-on continuer à sombrer dans la misère avec des ressources naturelles à notre portée? En plus, quelle solution palliative nous fait-elle du pétrole se trouvant au parc par crainte de ne pas l'exploiter?
Réaction à Isaac Mumbere.
Ok, merci. Je suis totalement d'accord avec l'auditeur de Bounia. Je sais que la gestion comme elle a été, peut-être n'a pas été satisfaisante pour quelques personnes. Mais ici, nous sommes en train de vouloir régler une question d'intérêt général. Ce n'est pas que une famille n'a pas se retrouver peut-être dans la gestion du parc qui est un bijou, je le rappelle encore parce que je sais tous les écosystèmes qui se retrouvent. Ce n'est pas que parce qu'une famille n'a pas se retrouver dans cette gestion que la gestion a été chaotique. Ce que nous voulons résoudre comme problème, c'est de faire un choix entre l'exploitation du pétrole et la conservation de cette aire protégée. Et je vais peut-être aussi réagir par rapport avec les réactions du ministre et quant aux techniques qui sont en train d'être présentées comme des techniques modernes d'exploration. Je pense que la population au niveau du parc de Virunga, en tout cas, n'est pas suffisamment informée de ces techniques. Et l'autre problème, c'est que ces techniques sont présentées par les experts même de l'entreprise. C'est-à-dire que ici, il y a un acteur qui manque, c'est la société civile de cette population, avec aussi les analystes qui peuvent peut-être contredire ces techniques qui nous sont présentées. Et aussi, on semble se vanter le bienfait des autres exploitations qui ont été faites ailleurs, mais on ne veut pas aussi présenter les inconvénients que ces exploitations ont produit sur les populations. Je sais bien que nous allons parler aussi des conséquences, mais je reviens vraiment sur la bonne foi parce que nous sommes en train de sentir qu'il n'y a que deux parties qui interviennent dans ce dossier, c'est le gouvernement congolais avec l'entreprise Soko. Et où est la population dans tout ça? Monsieur le journaliste, je vous rappelle que le parquet a subi une pression humaine avant que l'on puisse accepter ou soit l'on puisse autoriser cette exploration. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, par exemple, si on autorise l'exploration du pétrole par l'entreprise Soco et autoriser aussi les activités humaines dans les parcs. Je vous dis, monsieur le journaliste, qu'il y a les codes forestiers, par exemple, qui interdisent les activités humaines dans les parcs. Mais une fois on autorise l'exploration, avec toutes ces techniques que on ne peut d'ailleurs pas bien expliquer à la population, est-ce que ça ne serait pas autorisé aussi cette activité humaine et voir maintenant toutes les conséquences qui peuvent s'en suivre. Et souvenez-vous aussi du pays du bassin du Nil. Et je sais que le ministre, il est informé de tout ce qui se passe au niveau de là.
Isaac Mumbere, puisque vous avez pratiquement déjà abordé la deuxième partie de l'émission, allons-y directement. Quelles pourraient être les conséquences si cette exploration aboutissait à l'exploitation pétrolière dans le parc de Virunga? Je rappelle que nous sommes vraiment au conditionnel et puisqu'il n'y a encore rien qui n'a été confirmé dans ce sens, à vous comprendre, vous craignez le pire en fait.
Oui, nous craignons le pire et c'est par expérience, messieurs les journalistes. Et je rappelle que comme les techniques de cette exploration ne sont pas bien présentées par même l'entreprise Soco, il y a des compétences qui peuvent même être, en tout cas, observées même au niveau de l'exploration. Et la pollution, elle n'est pas oubliée, même si on parle d'une étude aéromagnétique. Mais nous savons tout ce qu'il y a dans les parcs, je vais dire. Mais aussi la déforestation n'est pas aussi à rejeter, même si on sait trouver que voilà, il y a déjà un cadrage. D'ailleurs, on recoute de ce cadrage aussi. Mais parlons encore des espaces économiques, monsieur le journaliste. Et je vous ai parlé tantôt de plus de 500 000 familles qui vivent de ces ressources halieutiques. Et comprenez donc qu'il y aura même perte de la productivité des économies d'autosuffisance. Comprenez que. Et même, il y aura aussi, je vais aussi parler des partis politiques, monsieur le journaliste.
Tout
ce que nous connaissons dans le cadre de l'exploitation des ressources, monsieur le journaliste, il y a toujours une augmentation aussi des conflits dans la région.
Merci.
Je vous rappelle que je suis de la province, j'ai connu la cartographie même des milices de notre province, et le bloc 5, en tout cas, et n'en fait pas exception.
Merci Isaac Mumbere et Alfie Tengue. Je vous donne la parole tout à l'heure, mais j'ai parlé des réactions. Il y en a beaucoup qui sont pour et contre. Eustache Fils Nakatege Mufungi de Bukavu Sud-Kivu. Le gouvernement congolais a au moins du temps à penser au phénomène réchauffement climatique et effet de serre. Pourquoi il n'a pas attaqué le problème du gaz naturel du lac Kivu? Il attend les dégâts catastrophes mortels qui pourront surgir déjà d'un moment à l'autre, selon les experts en la matière, pour se mettre sur la terre. Saddam Lokonde de Gomona Kivu. Est-ce que le ministre de l'Environnement, avant de prendre cette décision, a mesuré les dommages que ce travail va coûter à la vie des hommes et aux animaux? Nous devons privilégier l'argent ou la vie de la population. Trésor Mutombo, le grand problème est que tous ces contrats n'ont jamais profité au peuple, alors mieux vaut encore notre parc. Robert Baomé de Bukavu Sud-Kivu, je pense que cette décision du gouvernement est bonne pour l'économie du pays, dans la mesure où, une fois mise en œuvre, l'exploitation pétrolière dans le Virunga permettra de gagner des revenus sûrs et assez considérables. Cependant, il est à déplorer que cela n'épargnera pas le parc de Virunga d'être totalement effacé du patrimoine mondial de l'UNESCO. Gérard Kazingoufou de Bénionor Kivu, le bloc 5 ne regorge pas seulement du pétrole comme richesse, mais aussi sa faune et flore. Ainsi donc, la RDC peut récupérer les recettes dans le tourisme et la contrepartie du carbone que ce bloc génère pour lutter contre le gaz à effet de serre qu'entraînerait cette destruction. Al-Kisengé, toutes ces craintes ne fusent-elles pas à cause de l'expérience qu'on a de la malédiction, par exemple, du pétrole dans d'autres pays où l'exploitation est active?
Je voudrais vous contredire parce que tous les pays qui ont du pétrole autour de nous démontrent une progression fulgurante. Il faut regarder ce que l'Angola est en train de faire, il faut regarder ce que le Congo-Brazzaville est en train de faire. C'est la manne pétrolière. Et donc, il ne faut pas cracher dessus. Par contre, moi, je voudrais intervenir sur deux paliers. Le premier palier, vous sentez une grave crise entre la population et les gouvernants. Et là-dessus, il y a une méthodologie à suivre. Aujourd'hui, il faudrait que le gouvernement dise ce pétrole, pourquoi faire?
au-delà du pétrole, qu'est-ce que nous désirons faire? Aussi bien pour tout le pays que pour les personnes qui vivent aux alentours de ce site. Première des choses. Deuxième chose, il faut vendre un rêve à la population congolaise. Et ça doit être un grand rêve, un rêve d'un grand Congo, pour rétablir la confiance entre les dirigeants qui sont finalement nos frères, nos oncles, nos cousins, nos cousines, et donc qui viennent de la population. On n'aura pas un jour des gestionnaires de ce pays qui viennent d'ailleurs. Il faudrait que rapidement, et même si cela est progressif, que la confiance renaisse. À partir de ce moment-là, nous allons laisser les mains libres à ceux que nous choisissons pour nous diriger. Et quand ils nous dirigent, ils ont un devoir de responsabilité. Et ils ont un devoir de comptabilité. La communication interactive permanente sur des questions qui peuvent soulever des suspicions. Aujourd'hui, avec l'initiative PITIE, on est obligé de reporter parce qu'on nous impose de reporter. Ça doit être notre système de gestion. Nous devons avoir une communication interactive permanente entre nous pour bâtir ce ciment. Ceci dit, je voudrais encore revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Au-delà des études d'impact environnemental, dans le monde entier, toutes les mines qui se sont fermées se sont converties soit en des forêts artificielles, soit en des places qui ont été converties en milieu urbain. Et donc, il y a une vie au-delà d'une exploitation. Ça doit faire partie des choses que l'on doit pouvoir être en mesure de communiquer aux gens. Mais encore une fois, ce n'est pas des choses qui se passent sur une seule génération, c'est une solidarité transgénérationnelle. Ça sous-entend qu'en fait, aujourd'hui, on va impacter, si on décide d'exploiter ce parc, mais qu'est-ce qu'on voudrait en faire en fin de vie d'exploitation? Première question. Deuxième chose, qu'est-ce que nous allons avoir à donner à nos populations qui vont se retrouver privées de ce parc? Ceux qui en bénéficient directement et ceux qui en bénéficient indirectement. Ça sous-entend qu'en fait, il faut éviter de laisser la décision à ceux qui n'en ont pas les informations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'on sache qu'une exploration, ça coûte de l'argent. Et la République démocratique du Congo, pour l'instant, n'a pas d'argent. C'est pour ça que les autres sites, nous n'avons toujours pas fait d'exploration. La bonne nouvelle pour vous, c'est que si on découvre demain que nous avons une réserve importante de carburant ou de pétrole, nous pouvons ne pas l'exploiter. On peut l'utiliser comme levier financier pour lever des capitaux et faire autre chose. C'est une des options. Mais si jamais on était obligé de l'exploiter, aujourd'hui, la technologie n'est pas la même que celle d'il y a 50 ans, qui prévalait au moment où on faisait la loi congolaise, à laquelle faisait référence tout à l'heure le ministre. Mais en dehors de ça, les peurs des populations. Moi, je pose la question de savoir, est-ce qu'on est en train de demander aux gens de rester dans l'état actuel des choses où on pense que toutes les personnes, où qu'elles soient, ont le droit à accéder à une certaine modernité? Il ne faut pas que les gens pensent qu'un enfant qui est dans le parc aujourd'hui doit continuer à pêcher comme les parents sont en train de le faire aujourd'hui. Il faut penser à ce citoyen de manière tout à fait ambitieuse. Et donc, si le pétrole est une chance pour qu'on puisse lui mettre en place des infrastructures d'enseignement et un système d'enseignement qui lui donne demain la possibilité de devenir ministre à la place de son excellence qui est à côté de moi, mais pourquoi pas? Ça ne doit pas être quelque chose qui limite les gens. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, il faut réfléchir pour demain.
Mais à Kitenge, les minerais n'ont pas permis à la population d'accéder à la modernité. Le pétrole le fera-t-il?
Le pétrole a un cycle assez court. Le pétrole a un cycle d'exploitation plus court que celui du secteur minier. Mais qu'à cela ne tienne, notre réserve minière est exploitée, est estimée aux alentours de 24 000 milliards. La République démocratique du Congo n'a même pas accédé à cette étude. C'est l'une des choses qu'il faut faire. Il faut acheter cette étude et être en mesure de pouvoir travailler sur ce qu'on appelle la planification. Vous posez un problème réel. Et moi, je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est toute cette absence totale du plan général de développement. Où est-ce que nous voulons aller demain? Les mines, c'est très beau, mais les mines sont épuisables. Quelle est la vie du Congo après les mines? Aujourd'hui, mon point de vue est simple. Nous devrions nous battre pour que nos réserves minières soient la base de notre économie tertiaire de demain. Une économie intelligente, une économie basée sur les services, une économie qui a servi à former notre personnel pour ça.
Merci à Kitenge. Je rappelle que vous êtes analyste économique, comme le ministre José Ndondo. Vous êtes ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme du gouvernement central. Il faut un plan général de développement, dit à Kitenge. Monsieur le ministre, quelles pourraient être, d'après vous, les conséquences dans l'hypothèse où l'exploitation pétrolière était autorisée dans le parc?
D'abord, on n'y est pas encore. Je ne vais pas vous répondre. Oui, c'est beau d'avoir des rêves. C'est extraordinaire ce que M. Kitenge dit. On n'y est pas encore. Il ne faut pas, dans ce domaine, dire aujourd'hui qu'il y a déjà, on ne sait pas, si le pétrole qui existerait est exploitable. Parce que pour qu'il soit exploitable, il faut qu'il y ait un comparatif coût et avantage. On ne le sait pas. De deux, je crois qu'il faut revenir à certaines notions de base. Aujourd'hui, le premier contributeur au budget de l'État, c'est quand même Perenco. C'est-à-dire une société pétrolière. Est-ce que ça veut dire qu'on va demain exploiter le pétrole? Mais non, ce n'est pas ce que veut l'arrêté que j'ai pris. Ce que l'arrêté veut, c'est un, d'abord remplir la loi qui prévoit que lorsque quelqu'un a un contrat et qu'il produise correctement une étude d'impact environnemental et social, selon les cas, on l'autorise ou on ne l'autorise pas. C'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, est-ce que cette étude, justement, l'effet de levier à créer, qui est dans l'intérêt des populations, sauf à penser que nous vivons dans un système qui exclut la société civile, qui exclut le développement. À partir du moment où on a un levier, on peut très bien dire, non, le parc, je connais très bien le parc, je veux le maintien du parc. Mais à vouloir se fermer les yeux alors qu'il y a une pression anthropique de plus en plus forte, risque justement de compromettre l'avenir du parc. Il faut donc prendre des mesures qui s'imposent au moment voulu. Aujourd'hui, c'est une étude simplement à partir d'avions volant à 500 mètres qui permettrait de dire ou de lever une hypothèse sur l'exploitation pétrolière ou pas. Le reste peut venir après, mais il est aujourd'hui temps de savoir, on ne va pas rester indéfiniment sur un quiproquo comme celui-là où la moitié des gens disent il faut faire du pétrole, ou l'autre moitié dit qu'il ne faut pas faire de l'exploitation pétrolière. Il faut garder le parc. Moi, je suis ministre de l'Environnement, donc je veux le maintien du parc, je veux le développement du parc, je veux l'écotourisme dans le parc, mais pour le faire, il faut remplir certaines conditions. C'est cela, c'est à ce stade que nous sommes, et c'est pour ça que ces décisions sont prises.
Merci, monsieur le ministre. Il me reste moins de 3 minutes pour terminer l'émission. Isaac Mombéré, vous êtes membre de l'ONG Centre de recherche sur l'environnement, la démocratie et les droits de l'homme, Credo, basé au Nord Kivu. En guise de conclusion, Isaac Mombéré, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette question?
Pourtant, nous rappelons les gouvernements congolais à plus de responsabilités, parce que ce que nous sommes en train de voir sur terrain, c'est qu'il y a l'entreprise qui présente à la population de promesses fallacieuses et chimériques. Et nous pensons que, en tout cas, cette population, elle est en danger, elle est abandonnée. Et nous disons que vraiment, et à ce moment où le membre du gouvernement serait en train d'expédier les affaires courantes, nous pensons que ce n'est pas une telle décision qu'il faut prendre à ce moment.
Merci Isaac Mombéré Alkitenge. Vous avez suivi dans sa précédente intervention, Isaac Mombéré craignait des conséquences même politiques. En guise de conclusion.
Je pense que lorsqu'il s'agit des questions d'État, il ne faut pas être sentimental. Il faut être le plus pragmatique possible. Encore une fois, mon point de vue, c'est que les études sont importantes, de sorte qu'on puisse être en mesure de prendre des choix en toute connaissance. Et c'est en toute connaissance qu'on peut être responsable. Responsable vis-à-vis du leadership du pays, responsable vis-à-vis des populations. Encore une fois, je dis quelque chose d'assez clair. Il faut que ce pays donne un rêve à chaque citoyen, où qu'il soit, et non, Dieu nous a dotés de ressources naturelles. Si on a fait un inventaire correct, on va mettre en place une stratégie de travail correcte.
Et pour les auditeurs qui nous suivent à Kitenge, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir également?
Je pense qu'il faut rester serein, il faut faire confiance aux gens qui nous dirigent, et il faut leur donner la chance de nous démontrer qu'ils sont capables. Il faut les surveiller.
Monsieur le ministre, en guise de conclusion, il y a tous les auditeurs et internautes qui sont en train de vous suivre, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir?
Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? La première chose, c'est que, parce qu'il faut répondre à ce que disait l'autre, l'arrêté est pris depuis plusieurs mois. De deux, quelqu'un a évoqué ici la question du gaz méthane qui s'ouvre dans le lac Kivu. Mais pour exploiter le gaz méthane, il faut de l'argent. D'où viendra l'argent? C'est cela, c'est l'enveloppe globale d'une politique qui fait que, un, les aires protégées, c'est indispensable à ce pays, à son image, nous ferons en sorte de préserver les aires protégées. Deux, s'il y a des ressources, il faut une décision politique, mais il faut démontrer qu'il y a ces ressources. Ce n'est pas le cas en ce qui concerne le parc du Virunga, donc le problème ne se pose pas à moi à ce stade.
Merci, monsieur le ministre, d'avoir participé à cette émission. Merci à Alki Tengue ainsi qu'Isaac Mombéré. Merci également à vous, chers auditeurs et internautes,
de nous avoir suivis. Dialogue entre Congolais est terminé pour ce soir. Dimitri Ndou et Alain Goy étaient à la technique. Guy Maté et Samuel Kachak m'ont aidé à préparer cette émission sous la supervision de Ben Kabamba. À la coordination et à la présentation, Alain Roumoussis, au revoir. Thank you.